Pourquoi pas vieille ?
Pourquoi pas vieille ?
Pourquoi pas ?
Pourquoi pas vieille ?
Pourquoi pas vieille ou comment débattre du vieillissement en se racontant ? Que se passe-t-il quand on vieillit ? Qu'est-ce qui se dit ? Qu'est-ce qui ne se dit pas ? Qu'est-ce qu'on se dit ? Qu'est-ce qu'on ne se dit pas ?
Pourquoi pas vieille ?
Réalisé par Alexia Guignard.
Une émission qui s'appelle Pourquoi pas vieille. Alors, je sais pas ce que ça vous évoque, Pourquoi pas vieille, comme émission radio.
Je présume qu'on parle de femmes. C'est un peu intergénérationnel. Ça traverse plus ou moins tous les âges.
Pourquoi pas vieille ? Bah oui, pourquoi pas vieille ? On a le droit de vivre longtemps, en bonne santé, d'avoir de la ressource pour vivre notre vie comme on l'entend, avoir du plaisir aussi.
Moi, le titre de l'émission, ça me fait plus penser au contre-pied du jeunisme, en fait, au fait et, bah, voilà, qu'on montre aujourd'hui nos cheveux blancs, que les rides, qu'on a le droit de s'habiller comme on veut encore à 70 ans, sans que ça soit perçu comme quelque chose de non acceptable par la société. Donc effectivement, c'est la place des vieilles est importante. Et
c'est pas la fin, quoi.
Non, c'est ça. On n'est plus les petites grand-mères avec leurs blouses grises ramassées dans la cuisine qu'on ne montre plus. Il y a encore une place pour les vieilles et surtout les vieilles d'aujourd'hui qui ont vécu des choses quand même dans les années 70 et qui ont encore à apprendre plein de choses aux jeunes.
Et justement, dans une émission Pourquoi pas vieille, qu'est-ce que vous y mettriez ?
Bah, tout ce qui fait la vie d'une personne de Pourquoi pas vieille.
Ouais, c'est ça, c'est de parler des choses qu'on vit, qu'on... Enfin, tu parlais de plaisir tout à l'heure, voilà, le plaisir qu'on a encore.
Tout ce qui fait qu'on tient debout et qu'on avance et qu'on est bien là où on est et qu'on a envie de continuer et qu'il n'y a pas de raison, malgré l'âge, qu'on ne soit pas bien où on est, là où on est. Voilà, avoir des piliers qui tiennent et puis à la bienveillance et puis pouvoir aller là où on veut, comme on peut peut-être, mais en s'équipant aussi, en étant aidé, étayé. Et pas seul.
Deuxième épisode de Pourquoi pas vieille sur la thématique vieillesse et liberté. Des petits arrangements avec soi-même. C'est avec cette musique qu'Elba nous a accueillis chez elle pour poursuivre notre réflexion. Réflexion débutée lors d'un premier atelier radio avec certains membres de l'association Pourquoi pas vieille, dans le but de questionner le lien entre vieillesse et liberté. À l'issue de nos discussions, nous avions décidé de revenir sur ce qu'est la dépendance et d'intituler notre épisode « Les petits arrangements avec soi-même ». Ainsi, notre deuxième épisode de la série « Vieillesse et liberté » parle d'autonomie, de dépendance, d'espace de liberté, de petits arrangements avec soi-même. Épisode qui combine plusieurs voix, issues d'un nouvel atelier radio avec « Pourquoi pas vieille, mais pas seulement ». Il y a aussi des voix collectées ici et là qui rendent compte de réalités différentes. Pour débuter, on part sur le démarrage de l'atelier radio où je demandais aux participants d'exprimer leurs ressentis par rapport à notre thématique vieillesse et liberté, de nous partager leur cheminement depuis notre dernière rencontre. Vous en êtes là maintenant sur ce sujet vieillesse et liberté, est-ce que ça a mûri ?
J'ai pas mal réfléchi sur la question de la dépendance. En imaginant qu'on pourrait commencer peut-être pour savoir de quoi on parle quand on parle de dépendance. Et ce qui m'intéresse, c'est de montrer que la question de la dépendance dans l'âge avancé pour les personnes vieilles, c'est pas une notion de dépendance différente à celle des autres âges. Et la dépendance peut être économique, peut être affective, peut être émotionnelle, peut être physique, il y en a plein de dimensions qui vont conditionner les niveaux de dépendance. Et ça n'a pas... ne dépend pas directement du fait qu'on soit vieille ou pas. Et normalement, on parle de dépendance, oui, quand les gens deviennent dépendants. Mais ça, c'est parce que la représentation plus courante, c'est deviennent dépendantes quand ils sont vieux. En fait, la dépendance n'est pas du tout un thème exclusif des personnes vieilles. Et on traverse toute la vie avec différents niveaux de dépendance. C'est ce que j'ai arrivé à un peu à construire avec la réflexion. Voilà.
Absolument. Ce qui me gêne beaucoup dans cette histoire, c'est que la plupart du temps, on entend le mot dépendance au singulier, féminin, la dépendance, pour indiquer que les personnes ne valent plus rien, ne sont plus autonomes et en fait sont bonnes. C'est l'antichambre en fait, c'est juste l'étape, c'est l'antichambre de l'EHPAD, quand ça n'est pas déjà l'EHPAD. Voilà. Alors que Elba dit que toute notre vie, on est dans des dépendances multiples à tout, aux autres, etc. Et ça, c'est très, très intéressant parce qu'on fait comme si ça n'existait pas, comme si en réalité, on devenait dépendant un jour quand on est bien vieux. Et on tait, c'est-à-dire que c'est un impensé, en fait. Pour moi, ces dépendances multiples, tu as raison quand tu dis émotionnelles, financières, surtout les femmes, conjugales, absolument, émotionnelles, affectives, cette dépendance qui fait que on reste peut-être alors qu'on souhaite partir. Bref, et on n'en parle pas, comme si dans notre société, ça c'était tabou. Et essayer de lever le voile de ces dépendances-là et donc de cette recherche de liberté en tant que femme, tout court, et ce, quel que soit notre âge, au fond, je trouve que c'est une sacrée ouverture.
Je suis dépendante malheureusement de la cigarette aujourd'hui. Je vais essayer d'être libre par rapport à ça. Et sinon, je suis très dépendante de l'amour de ma famille et notamment de ma grand-mère.
Est-ce que tu es dépendante de quelque chose ?
Oui, de mon papa, de ma maman, de mon chat, de mes amis, des potes et de mon doudou.
Du chocolat peut-être un petit peu. J'aime bien le chocolat, mes carrés de chocolat tous les soirs, j'aime bien. C'est une forme de dépendance quand même, hein. J'aurais peut-être du mal à m'en passer. Autrement, je ne suis pas dépendante d'un homme non plus. Eh bien non, donc je ne suis pas dépendante de grand-chose finalement. Hein. Je suis une femme libre, voilà.
Est-ce que tu es dépendant de quelque chose ?
Oui.
De quoi ?
Du sport, du hand, du chocolat aussi.
Est-ce que tu es dépendant de quelque chose ?
Du chocolat. Il a bien fallu remplacer la cigarette.
Pendant tout parcours de la vie, les différents âges de la vie, la notion de dépendance nous accompagne d'une façon différente. Quoi de plus dépendant qu'un nouveau-né, par exemple, hein? C'est-à-dire, c'est émotionnel, c'est physique, c'est alimentaire, il dépend complètement de l'autre, de celui qui le prend en charge. En l'occurrence, les parents, la mère en premier. Mais au fur et à mesure que les âges avancent, la notion de dépendance se joue ailleurs. C'est-à-dire, peut-être qu'on commence à pouvoir s'habiller toute seule, marcher, se nourrir, etc. Mais la dépendance persiste tout le temps et nous accompagne dans les différents âges. Dans la société actuelle, quand on parle de dépendance, on retombe tout de suite sur les échelles de dépendance qui existent pour qualifier, pour si je vais aller dans un EHPAD ou je vais remplir un formulaire, si je suis dépendante ou pas. Enfin, tout le monde est dépendant. Et la personne âgée, et arrivé à un certain moment, il va avoir des dépendances physiques qu'il ne pourra pas assumer toute seule. Et c'est là qui apparaissent les petits arrangements avec soi dans la vie quotidienne. Ce n'est pas des choses extraordinaires. Je n'ai pas besoin de faire une échelle pour savoir qu'au bout d'un moment, je ne peux plus éplucher les pommes de terre comme je les faisais avant parce que ça me fait trop mal aux mains. Donc, c'est à moi de savoir quel outil je vais utiliser pour éplucher, pour ne pas continuer à me faire mal et pouvoir quand même continuer à éplucher les pommes de terre. Et ça, ce sont des petites choses de vie quotidienne toutes bêtes qui vont me permettre de négocier avec la, entre guillemets, l'handicap qui apparaît. Et comment je vais négocier va dépendre le temps dans lequel je vais conserver mon autonomie, donc ma liberté, ou mon espace de liberté. Et je suis dépendante quand je n'agis pas toute seule, n'est-ce pas, en tant que personne, homme ou femme, à couvrir mes besoins en rapport à un aspect de ma vie, ou de mon corps. J'ai comme être humain, j'ai des besoins qui sont émotionnels, affectifs, physiques. Il y en a une quantité d'échelles de besoins aussi qui ont été construites parce qu'il y a des gens qui sont amusés toute leur vie à faire des échelles de tout, hein, pour savoir dans quelle casse de cette échelle on rentre.
Quand il a fallu que je remplisse la première grille GIR pour mes parents, enfin pour ma mère, ça m'a détruite de l'intérieur. Je me suis dit, ça y est, ma mère, c'est fini, quoi. C'est vraiment l'antichambre du tombeau. On me demande de la flanquer dans une petite case comme on met les gens ensuite, une fois qu'ils sont décédés, après le crématorium, donc au funérarium. Eh bien là, on me demande s'agrigir. C'était terrible pour moi de devoir. Et j'ai mis des mois, je ne sais même pas si c'était pas une année, plus d'une année, je crois, alors que j'avais ce dossier à faire remplir, je n'y arrivais pas.
Ce qu'on appelle le GIR, c'est le groupe ISO Ressources. C'est un moyen de calculer la dépendance en fait, des personnes âgées au moyen d'une grille qu'on appelle la grille AGIR. La grille va de 1 à 6. Donc GIR 1, ce sont les personnes les plus dépendantes et GIR 6, les personnes les moins dépendantes. Le GIR permet de déterminer si ces personnes peuvent avoir droit à l'APA, donc l'allocation personnalisée d'autonomie. Donc l'APA est délivrée par le conseil départemental.
Et l'APA, elle sert à soit prendre en charge les aides nécessaires au domicile ou
aider les familles à financer l'hébergement des résidents dans les EHPAD.
Il se trouve que j'ai eu deux parents, par chance, qui ne sont jamais allés en EHPAD. Et je me demande, en fait, si je vais pouvoir échapper, comme mes parents, à ce triste sort. Ils ont été dynamiques jusqu'au bout. Et les tout derniers mois, avant de décéder, ils sont allés à l'hôpital. Puis alors, en fait, ils sont allés à l'hôpital et puis en soins palliatifs pour ma mère quelques mois. Et puis elle est partie comme ça. Et en fait, le dossier que j'avais dû remplir pour ma mère, pour l'EHPAD, n'a servi à rien, quoi. Je me vois maintenant, effectivement, vieillir. Alors, pas à leur âge, parce qu'en fait, ils sont quand même décédés à un âge assez respectable, 87 et 85 ans. Bon, mais je me dis, moi, on prendra peut-être pas autant de gants avec moi. Et ça m'angoisse terriblement. Donc ce sont des questionnements sur la dépendance, parce que je ne veux pas d'une telle fin. D'autant que avec tout ce qui est sorti comme bouquin sur justement les établissements pour personnes âgées, enfin c'est un véritable cauchemar quoi. Et donc je me dis, est-ce que je vais pouvoir être aussi dynamique que mes parents jusqu'au bout? Et qu'est-ce que c'est qu'être dynamique jusqu'au bout? Voilà, les Fossoyeurs, tout à fait, Castanet, voilà, entre autres. Et donc, je ne l'ai pas lu, mais ça, tout de suite, je me suis dit, ça, c'est un livre qu'il faudra que je lise. Mais je ne peux pas le lire en ce moment, c'est trop douloureux. Mais c'est vrai que j'ai écouté beaucoup d'émissions, je l'ai entendu parler, etc. Et je me disais, chaque fois que je l'entendais, je me disais, oh, mes parents ont échappé. Quelle chance, mes parents ont échappé. Et je me dis, mais moi, est-ce que je vais avoir le tonus, la santé, pour pouvoir échapper comme ils ont fait?
Et est-ce que tu en as parlé avec ton fils?
Alors, mon fils, non, j'en parle pas. Il a vécu les derniers mois de son grand-père et de sa grand-mère, les tout derniers mois. Bon, il était petit, donc voilà. Mais quand je passe devant l'EHPAD où est décédé mon père, je dis à mon fils, quand je passe là, je lui dis toujours comme ça, mais en entrefilet, quoi, voilà, en flash, jamais, ne me mets jamais là-dedans. Ne me mets jamais là-dedans. Débrouille-toi, trouve n'importe quelle solution, mais jamais, jamais. Voilà. Mais est-ce que j'aurai la vitalité? Est-ce que j'aurai la santé? Est-ce que je pourrais justement continuer à être non dépendante jusqu'au bout, sans passer par ces cases-là? Voilà. Et donc ça, c'est des questions que je me pose aujourd'hui. Pourtant, bon, j'ai quand même plusieurs années devant moi, j'espère. Voilà. C'est vrai que j'avais la chance d'avoir deux parents extrêmement, extrêmement toniques, extrêmement qui prenaient leur vie en main et qui étaient très indépendants tous les deux. Voilà. Donc, mais on dépend d'une société aussi. On n'est pas seul sur un îlot.
Pour moi, ma grand-mère, elle est restée 16 ans en EHPAD. Avec Alzheimer.
Non. 16 ans.
La question qui me semble qui est extrêmement un peu signalée à niveau social et familial, c'est que le fait que les gens vivent seuls ne conduit pas forcément à la dépendance ou à le fait qu'ils plus facilement vont développer une démence sénile ou un Alzheimer, sinon le fait de ne pas socialiser. Et ça, c'est dû au fait que quand on vit toute seule, il faut en avoir un volontarisme presque pathologique pour se construire, hein, un réseau social forcé et sortir en permanence. Et la peur, hein, se transporte des faits de dire les jours que je ne pourrai pas sortir à faire ce que j'ai fait pour socialiser, personne ne va venir chez moi. Et là, je serai isolée. Et quand je suis isolée, bah, je déraille. Très peu de gens vont supporter le fait d'être en isolement. Une chose, c'est de vivre tout seul. Une autre chose, c'est de s'isoler. Et bon, sans parler des diagnostics qui peuvent se rajouter, des syndromes dépressifs, enfin. Parce que les personnes des autres âges, et même les gens de même âge, mais qui ne vivent pas tout seuls, interpelle très peu les personnes qui vivent toutes seules.
Prendre une personne dépendante en charge à domicile, pour la famille, c'est quand même très, très, très lourd. C'est dur aussi, d'un point de vue affectif, hein. Enfin, moi, j'aurais pas eu la force de prendre ma mère à la maison. Hein. Ben, j'aurais pas pu. j'aurais pas pu. D'abord, la situation de la maison, tout en escalier, ne s'y prêtait pas. Bon, j'avais des jeunes enfants, je travaillais, j'aurais pas pu, quoi. Donc on l'a mise dans un établissement. Mais moi, j'étais désemparée, complètement désemparée. Et donc moi, ce qui me fait peur, c'est de perdre mon libre arbitre. J'en ai parlé la dernière fois. De perdre la capacité de choisir par moi-même et d'imposer peut-être à d'autres ce choix qui est douloureux, forcément douloureux.
Quand on a cette peur, qui l'ont, toutes les vieux ont peur et les jeunes aussi, c'est la peur qui flotte là, c'est l'angoisse des morts. C'est, il faut le nommer, il faut dire, on a peur et je voudrais un jour qu'on aille dans un endroit qui soit neutre, peut-être plutôt drôle, et on va toucher petit à petit des thèmes pour qu'ils nous fassent moins mal. À moi, l'auteur Christian Bobin, je ne sais pas si tu connais le petit livre qu'il faisait, Bobin est décédé cette année. C'est un poète, hein, et lui, il n'était pas en sciences sociales, mais un type qui a fait une prose poétique extraordinaire. Et il disait, la douleur vient, et c'est une grande vérité pour moi, de la résistance qu'on fait à ce qui est en train de se passer. S'il est en train de se passer quelque chose d'inéluctable, qui nous fait de la peine, effectivement, et tout ça, mais on accepte qu'il est en train de se passer et qu'on fera avec et qu'on verra la façon de le faire le mieux possible et on l'a même parlé avec les autres, ça fera moins mal.
On va être amené à faire des arrangements pour privilégier quelque chose qui souvent nous est extérieur et qui fait que souvent on s'éloigne un peu de ce que l'on est profondément soi-même ou que l'on ferait si on avait pleinement le choix. Voilà ce que j'appelle les petits arrangements avec soi-même.
Pour moi, un petit arrangement avec moi-même, c'est plutôt une manœuvre de contournement. Moi, je reste plus terre à terre. Plus pragmatique, petits arrangements avec moi-même, c'est au quotidien, il y a un truc à faire qui m'embête, mais bon, je vais réussir à le faire, mais en contournant la difficulté, voilà.
On dit, je vais faire telle chose, mais pour arriver à faire ça, à la fin, je dois transiter pour plein de petits arrangements, pour arriver à faire comme on... Et là, ça veut dire qu'il faut renoncer, payer des coûts alternatifs. Et c'est de ces cheminements-là qui est difficile d'y arriver, je trouve. Et cette histoire de petits arrangements avec soi-même, à moi, ça m'a fait écho en rapport à un des jours qui décrit très bien la différence qu'il y a entre le travail prescrit, que c'est celui qui on, entre guillemets, ordonne à quelqu'un de faire, et le travail réel, que c'est tout le petit arrangement qu'un salarié ou un travailleur, soit professionnel ou pas, doit faire pour arriver à sortir sa tâche. Et ce sont des arrangements quotidiens qu'on fait.
Et alors il dit, justement, Christophe Dejour indique que, il met l'accent sur le hiatus de plus en plus grand dans notre société technocratique, ce hiatus entre le travail prescrit et le travail réel, et qui fait que les individus n'ont aucune reconnaissance. Parce que justement, pour arriver à faire la tâche, il faut déployer des savoir-faire, de l'ingéniosité, etc., etc., que l'on a depuis des années, si on est dans le poste depuis des décennies, et que les employeurs et que les patrons ne reconnaissent jamais. Et donc c'est là qu'il dit que l'employé, l'ouvrier, qu'importe, vit une difficulté éthique par rapport à ce qu'on lui demande dans son travail et par rapport à lui, ce qu'il y met comme sens, justement, dans les multiples tâches et le savoir-faire qu'il a et qui n'est jamais reconnu.
Quand les gens s'en vont, j'enlève les tapis. Je mets les tapis pour les invités et pour l'hiver, parce que je peux tomber. Et puis j'avais un grand matelas, des lits doubles, très épais, qui avait été effectivement en plus très cher à acheter. Et puis je me suis rendu compte que j'étais en train de me faire mal au dos d'une façon épouvantable chaque fois que j'ai changé les draps et tout ça. Alors ben, voilà, heureusement que j'ai des petits-enfants, donc ma petite fille de 25 ans était ravie parce qu'elle a eu dans son appartement un lit qu'elle n'aurait jamais acheté. Et je me suis servie moins de 6 mois et j'ai passé directement au bon coin. J'ai acheté lit in place et puis un bon matelas, mais 90 cm. Donc je le tourne toute seule. Et comment je dois situer les lits dans ma chambre, par exemple, je dois les situer de façon que je peux tourner tout autour pour les faire. La chambre, c'est verrée, plus grande. Si je le mets collé au mur, j'aurai beaucoup de difficultés pour le faire du point de vue ergonomique. Donc, ces types de choses-là, si tout le monde peut les apprendre, on n'a pas besoin d'avoir le prix Nobel de rien pour comprendre ça.
C'était Pourquoi pas vieille, réalisé par Alexia Guignard. Merci à Elba, Elisabeth, Charlotte. Merci à Samira, Paula, Lisiane, Monique, Estelle, Marielle. Merci aussi aux personnes rencontrées dans la rue qui ont bien voulu prêter leur voix.